franceinter.fr.
France Inter, le 6-9 de l'été.
Thierry Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG d'Atos, l'une des plus grosses entreprises du service, de service du numérique, 100 000 employés dans le monde. Vous êtes aussi un ancien ministre de l'économie du gouvernement Raffarin. Alors d'abord, quel regard vous portez sur celui qui occupe le poste aujourd'hui à Bercy, Emmanuel Macron?
Ah, je pensais que vous alliez me dire Michel Sapin. Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Oui. Écoutez, il a été, je trouve, un pas mauvais ministre de l'économie dans la mesure où il a bien remis l'économie au centre du jeu. Bon, maintenant, il a peut-être pas eu toute la liberté pour faire ce qu'il voulait faire, c'est clair. Et puis, il n'a pas beaucoup de temps non plus.
Qu'un ministre fasse un meeting, un meeting préélectoral au gouvernement, ça vous fait réagir?
Écoutez, moi en tout cas, ce qu'il dit, vous l'avez rappelé, hein, j'ai appartenu aux deux derniers gouvernements de Jacques Chirac, et au fond, ce qu'il me dit en tant qu'ancien ministre de Jacques Chirac me va parfaitement.
Sur le fond de sa politique.
Ah bah oui, clairement, oui, il dit exactement ce que nous disons à droite, oui.
Donc quand il dit qu'il est à gauche.
Bah en tout cas, moi, je reconnais ce qu'il dit, voilà.
Très bien. En cette veille de 14 juillet de défilé militaire, c'est l'occasion de revenir quand même sur votre projet, Thierry Breton, de créer un fonds européen de défense et de sécurité.
Oui.
Je résume, refinancer les dettes liées à la défense dans la zone euro, c'est ça?
Oui, c'est un sujet sur lequel on travaille à plusieurs depuis maintenant près d'un an. Et en fait, la motivation qui a été la nôtre, et en particulier la mienne en tant que ancien membre de l'Eurogroupe et vous le rappeliez implicitement, le dernier des ministres de l'économie et des finances à avoir baissé assez significativement la dette de la France, Dominique se s'en souvient, c'était ma politique. Je suis très préoccupé depuis maintenant plusieurs années sur, bien sûr, l'état de nos finances publiques, mais aussi sur la divergence désormais absolument massive entre la France et l'Allemagne. Je vous donne un chiffre. Lorsque je quitte le gouvernement en 2007, la France est dans une bien meilleure situation que l'Allemagne, puisque nous avons 62% d'endettement. L'Allemagne est à 67%. C'était pas il y a 10 ans. L'Allemagne avait été plus endettée que nous. La France est à 7,4% de chômage. L'Allemagne est à 9%. C'était il y a moins de 10 ans. Et entre-temps, eh bien, on a complètement divergé. Aujourd'hui, nous sommes à 95% pratiquement d'endettement. L'Allemagne est à 72%. Elle va très vite vers les 60% et nous allons très vite vers les 100%. Et ce différentiel, voyez-vous, porte dans les germes potentiellement une implosion à venir de l'euro si les taux d'intérêt augmentent. Car, bien entendu, on s'est rendu compte de rien pendant cette période. Les taux d'intérêt ont massivement baissé. Nos auditeurs le savent. On parle même désormais de taux d'intérêt négatifs. Donc, lorsqu'on avait 1200 milliards de dettes, on payait 45 milliards de charges d'intérêt de la dette. Aujourd'hui, on a 2100 milliards de dettes et nous payons toujours 45 milliards de charges d'intérêt de la dette. On ne s'en rend pas compte. Dès que les taux d'intérêt vont monter, et ils monteront un jour, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, le prochain président de la République aura à faire face à une remontée des taux d'intérêt. À ce moment-là, la politique entre la France et l'Allemagne vont diverger, vont être orthogonales. Et je pense que ce ne sera rien. La crise de 2008, la crise de 2009 seront rien par rapport à la crise précisément de divergence entre la France et l'Allemagne. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument régler ce problème.
Maintenant, et en quoi ce fonds de défense, alors, finalement, c'est ce fonds européen de défense?
Alors, donc, d'où la réflexion qui est la nôtre. On a aujourd'hui, quand on interroge nos concitoyens, nos compatriotes européens, il y a deux sujets qui sont désormais majeurs pour eux. Le premier, c'est la sécurité et la défense. On le voit aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est un sujet absolument de préoccupation majeure pour nos concitoyens et on le voit tous les jours, hélas. Le deuxième, c'est évidemment le surendettement et l'emploi. Et donc, en fait, on s'est dit qu'il fallait essayer de voir si on pouvait mêler les deux. Comment? Eh bien, tout simplement en utilisant ce que je disais tout à l'heure, les taux d'intérêt nuls, voire négatifs, et donc en créant un fonds qui irait se refinancer sur les marchés à des taux d'intérêt extraordinairement bas, 0,2, 0,3%. Ce fonds se refinancerait sur les marchés sur une durée très longue, une cinquantaine d'années. On a validé ça avec la BCE, les services de M. Draghi. Et en contrepartie, reprendrait les dettes de défense depuis la constitution de la zone euro. Car au fond, nous avons tous beaucoup investi en défense depuis la création de la zone euro. Qui a investi le plus? Et en cette veille du 14 juillet, je crois qu'il faut que nos auditeurs le sachent, c'est la France, et de très loin. Nous avons investi, depuis la création de l'euro, plus de 740 milliards d'euros dans nos dettes, en fait, pour la défense et la sécurité des Français, mais aussi, d'une certaine façon, des Européens. On le voit tous les jours. L'Allemagne, de son côté...
On est loin quand même d'une Europe de la défense.
L'Allemagne,
il n'y a pas d'armée européenne.
Bien entendu, mais on va y revenir dans un instant. L'Allemagne, de son côté, bien qu'ayant une économie une fois et demie supérieure en PIB par rapport à la France, n'a investi que 520 milliards contre 740 milliards pour la France. L'Italie, 400 milliards. L'Espagne, 200 milliards. Et donc, on reprend l'ensemble de ces dettes. Il y en a pour 2300 milliards. Elles seront donc logées dans ce fonds. La dette de la France passe automatiquement à ce moment-là de 95% à 62%. Celle de l'Allemagne de 72 à 58%. La convergence revient possible. Et bien entendu, on peut de nouveau parler de convergence. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Car il ne s'agit pas, et ce n'est pas un tour de passe-passe. Je le dis très clairement, en contrepartie, évidemment, il y a 1,2 point de PIB qui est versé chaque année par les États dans ce fonds. Donc il s'agit de financer, finalement, sur du très long terme. Donc on repaye nos dettes sur 50 ans en se servant de cet phénomène exceptionnel des taux d'intérêt nuls. Deuxième élément, bien entendu, et c'est là où on va parler d'un embryon d'Europe de la défense. D'abord, il s'agit de bien comprendre que chaque pays doit continuer à être maître de sa politique de défense. Et dans le projet que nous proposons, chaque pays est maître de ses investissements, il est maître de sa politique de défense, chaque année il vote son budget, et la
les
partie du budget,
quoi,
les États doivent rester souverains, c'est très important, c'est extrêmement important. On voit notamment que pour la France, par exemple, il est hors de question de partager notre souveraineté nucléaire, une partie du reste de notre souveraineté de renseignement, et puis certaines opérations militaires que l'on va vouloir lancer dans des pays qui nous sont chers, je pense au Mali ou d'autres en particulier. Mais ce qui est important, c'est bien sûr qu'on commence à converger sur la durée du fonds. Et donc, chaque année,
les moyens de la défense.
Voilà, les investissements qui seront réalisés, donc votés par le Parlement, par les parlements de chaque État membre, sont ensuite proposés à un collège des gouverneurs militaires qui lui-même édicte une grille de dépenses qui sont potentiellement mutualisables et à ce moment-là, potentiellement remboursables par le fonds. Et on commence à avoir les embryons d'une Europe de la défense ensemble.
Thierry Breton, je vous interromps parce qu'il nous reste peu de temps et il y a un autre aussi que je voudrais qu'on aborde. Votre successeur à la tête de France Télécom, Didier Lombard, risque aujourd'hui le procès pour harcèlement moral après la vague de suicides dans l'entreprise. C'est vous, en tant que PDG jusqu'en 2005, qui avez lancé le grand plan de réduction des coûts. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui ?
Alors, c'est un sujet complètement différent. On passe du coq à l'âne, si je puis dire. C'est un sujet qui va être jugé.
C'est un sujet d'actualité.
Je veux absolument pas porter de jugement sur ce qu'a fait Didier Lombard. C'est pas mon rôle, ni la place de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne le travail que nous avions fait, on avait fait un travail, je crois, de façon très sérieuse, très respectueuse des uns et des autres, et qui a permis, je le rappelle, là encore, tiens, on va reparler du même sujet, de désendetter l'entreprise qui était la plus endettée au monde à l'époque, 63 milliards d'euros de dette. 63 milliards d'euros, c'était une dette qui était supérieure à celle du Portugal. L'entreprise était quasiment morte lorsque je suis arrivé. Le cours était passé de 200 euros à 6 euros en l'espace de 9 mois. Il y avait l'avenir de 240 000 personnes qui étaient en jeu. Et en 3 ans, eh bien, on a baissé la dette en la refinançant, en ayant un plan ensemble de 63 milliards d'euros à 32 milliards. L'entreprise a été sauvée sans pour autant avoir d'impact social. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier.
Thierry Breton, merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce matin. Est-ce que l'histoire de Machiavel, ça vous intéresse ? Vous allez voir, c'est passionnant.
Bien sûr.